Je suis Paul Mougineau et vous écoutez Entreprendre dans la mode.
Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Paul Mougineau, c'est quelqu'un qui était déjà passé sur Entreprendre dans la mode, c'était l'épisode 17, donc c'est fait il y a très longtemps, hein. Il y a 4-5 ans maintenant. Paul, c'est devenu un ami, on se suit, on se voit régulièrement. Et entre le moment où il est passé sur Entreprendre dans la mode et aujourd'hui, il s'est passé un milliard de trucs. Et il va nous raconter tout ça aujourd'hui. Salut Paul.
Salut Adrien, très heureux d'être avec toi à nouveau, après de nombreux très beaux épisodes d'Entreprendre dans la mode que j'ai écouté pour beaucoup avec attention et qui m'ont beaucoup appris aussi.
Trop bien, ben, merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est que tu te représentes quand même rapidement, hein, même si j'invite les gens à réécouter l'épisode 17 de Entreprendre dans la mode. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? À l'époque, pour rappel, t'étais un des cofondateurs de Dako. Dako a été revendu et en tout cas à l'époque, vous étiez en train de monter Dako, hein. C'était encore un tout jeune projet et vous l'aviez pas encore revendu. Donc tu vas nous expliquer tout ça, toute cette épopée Dako et puis ce qui s'est passé après.
Absolument. Alors, j'ai un parcours qui a toujours été un peu dans le même secteur quand même, hein, même si je fais plusieurs choses différentes, mais ça a toujours été un parcours à l'intersection entre, on va dire, la technologie et l'art et la création. Donc, j'ai toujours été intéressé par l'extraction, le traitement de la donnée, que ce soit pour des applications business, notamment dans la mode, mais également comment on peut utiliser ces algorithmes pour rechercher des nouvelles formes, des nouvelles images, des nouvelles manières de travailler aussi. Donc c'est vraiment voilà globalement ce sujet-là qui me passionne. Effectivement, quand on s'est rencontrés pour le premier podcast Entreprendre dans la mode, on était en plein développement de Dako, c'était en 2017, et on était même presque au milieu de la tempête, quoi. On était dans une tempête d'adversité. Il fallait arriver à comprendre comment structurer le produit, comment le vendre, etc. Et donc cette entreprise Dako qui faisait du benchmark concurrentiel dans la mode, donc qui aidait les acteurs de la mode à comparer leur collection avec les concurrents, on l'a développée avec le temps et on l'a transformée en une PME, voilà, qui vendait un produit basé sur l'intelligence artificielle et l'extraction de données à des clients qui étaient dans la mode. Et parmi nos clients, un des clients principaux était effectivement vente privée. Et avec le temps, on s'est rendu compte que on avait un terrain de jeu qui était plus large que ce qu'on pensait potentiellement avec vente privée, parce que outre les données externes qu'on allait chercher sur les différents sites e-commerce qui permettaient de comparer les collections, les offres entre elles et d'affiner le prix, on s'est rendu compte, et on savait un petit peu, mais que vente privée avait des données en interne qui étaient tout à fait pertinentes, et en les croisant, on pouvait atteindre en fait des outils, on pouvait créer des outils qui avaient un potentiel encore plus fort. Et donc on a choisi d'engager une danse avec vente privée et qui a mené finalement à l'acquisition de Dako par vente privée. Et l'objectif, c'était vraiment de créer le département pricing, donc le département de fixation des prix de vente privée. Donc ça s'est passé en 2018, donc un peu plus d'un an après notre podcast ensemble. Et donc pendant 4 ans ensuite, quasiment, chez vente privée avec mon équipe, hein, donc à Nice, Claire et puis les membres de Dako, nous avons constitué le département pricing, qui qui était à la fois constitué du même outil d'extraction de données. On allait naviguer sur de plus en plus de sites pour récupérer de plus en plus de données. Et puis, on a imaginé beaucoup d'applications ensuite de cette donnée, des modèles d'IA, etc. Voilà. Et donc, pendant ce temps chez Vente Privée, c'était un temps très intéressant parce que j'ai appris notamment à gérer des équipes très hétérogènes de 30 personnes qui avaient des rôles très différents puisqu'il y avait à la fois l'usine d'extraction de données et puis la partie un peu plus scientifique. C'était très intéressant, mais bon, ça restait, quand on se fait racheter, en fait, on rentre dans une entreprise, on devient salarié, on a une hiérarchie qui parfois s'intensifie de plus en plus. Et donc, j'avais un peu envie d'évasion et surtout de poursuivre la recherche dans ce domaine, dans le domaine de l'IA, de la donnée. Et donc, je me suis mis à développer des projets un peu parallèles. Et c'est ces projets-là maintenant que je développe et dont on pourra parler. Mais toujours, voilà, autour de la donnée, de l'art, de la création, de la recherche.
Peut-être pour revenir sur Dako et en faire une espèce de synthèse. Oui. Dans ces 5 ans, et en tout cas peut-être parce que c'est quand même d'un point de vue entrepreneurial, c'est une super belle réussite de se dire ok, je crée un business, je le vends 2-3 ans après et je l'intègre dans une méga boîte qui est VP. Quels sont tes apprentissages, qu'est-ce qui fait que d'après toi ça a été une super réussite et une réussite plutôt assez fulgurante, parce que bon, même si on est en 2022 et que les startups, ça se fait et ça se défait à vitesse éclair. Quelles sont, d'après toi, les raisons de ce succès? Est-ce que c'est un succès, d'ailleurs, pour toi aujourd'hui, quand tu le regardes dans le rétro?
C'est un peu ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis pas toujours dans l'auto-congratulation permanente. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui sont effectivement constitutifs d'un succès. Et il y a également un post-mortem assez violent qu'on peut faire. Et donc, je veux bien en partager les résultats aujourd'hui. Donc, peut-être sur le plan positif, c'est un succès parce qu'en fait, on a réussi finalement, avec une équipe assez restreinte, à développer une PME. Qui vendait un vrai produit basé à des vrais clients basés sur l'intelligence artificielle. Et à l'époque, 2015-2016, c'était quand même assez novateur. C'est-à-dire que c'était très différent comme fonctionnement chez Dako que d'être une boîte qui lève directement 2 millions d'euros, 3 millions ou plus sur une idée, qui se dit « ah bah, je vais essayer de faire un truc sur l'IA », qui pivote plein de fois parce que les gens dans les fonds, les juniors qui peuvent avoir parfois 23 ans te disent de pivoter toutes les 5 minutes. J'exagère un peu, mais c'est très différent de notre cas parce que nous, on n'a jamais levé de fonds. On a parlé directement avec des vrais clients qui nous ont un peu appris la vie souvent. Et donc, peu à peu, on a itéré sur un produit qui était assez utile. L'autre aspect du succès, c'est que on a vécu beaucoup d'épreuves, donc on a beaucoup appris. Mais même après, en fait, pour moi, le plus grand succès, c'est que cette entreprise qui a fait l'objet d'une acquisition par Vente Privée, donc c'était une vraie acquisition avec une vraie grosse valo. En face, on avait des banquiers, des avocats d'affaires, on avait aussi nos banquiers, nos avocats, on a négocié, etc. Donc, c'était pas si simple que ça. Mais surtout, en fait, après 4 ans, on peut dire que c'est un succès. Parce que là, ça fait 6 mois que j'ai quitté l'entreprise. La techno qu'on a vendue à Vente Privée, entre-temps, non seulement pendant notre présence a été développée, mais elle est toujours utilisée. Son usage est de plus en plus étendu chez Vente Privée. Et surtout, là, je suis parti de l'entreprise et ça tourne toujours avec des gens qui n'ont jamais créé la techno. Donc ça, c'est un succès. Et c'est ma plus grande fierté, c'est de dire, en fait, je n'ai pas créé quelque chose avec mon équipe de... qui a complètement transformé le marché, mais c'était suffisamment utile pour qu'une entreprise l'acquiert, l'utilise avec profit, et même quand je suis parti, ça continue de tourner. Donc souvent on dit quand on acquiert une entreprise, on a 50% des acquisitions qui foirent. Après, souvent on veut activer des synergies, le fameux 1+1=3. Nous déjà, ça fonctionne, ça tourne. Donc ça, voilà, c'est la partie succès. Le dernier point sur le succès, c'est que quand on a été acquis par Vente Privée, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans des articles, et puis même, je sais que Jacques-Antoine Grandjean, quand il s'exprime, a eu l'occasion aussi de l'évoquer, mais c'était une très belle aventure humaine également, parce que plutôt que d'utiliser cette techno pour automatiser des emplois, on a utilisé les équipes existantes et on a vraiment fait levier sur leur expertise, le fait qu'ils étaient là depuis longtemps. On les a formés à un outil qui était quand même assez technique. Ils l'ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme, de positivité et surtout d'intérêt. Et ça a permis en fait de qualifier davantage ces emplois, d'augmenter les salaires, de stabiliser des emplois qui pouvaient être assez facilement remplaçables ou précaires et de créer des vrais experts de la donnée, etc. Donc c'était vraiment passionnant. Et j'en profite pour rendre hommage à cette équipe, même si je suis parti, c'est vraiment un des points forts de Vente Privée, c'est cette bienveillance envers les équipes et cette volonté de prendre soin de tous les employés. Ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, alors c'est pas forcément négatif, mais les leçons un peu, après quelques années, en fait, je pense qu'il y en a une principale, il y en a deux. Bon, déjà, on n'a pas créé une multinationale, hein, donc on est passé de 0 à 1. Grâce à Vente Privée, à l'intérieur de l'entreprise, on est passé de 1 à 100, on va dire, mais on n'a pas créé une licorne. Donc, bon, on aurait pu sans doute faire mieux, créer plus d'emplois, développer plus le marché. Ça, c'est un choix stratégique. L'autre aspect, c'est que, en fait, c'est un peu dur à admettre, mais je suis bien obligé de l'admettre, c'est que, en fait, on n'avait pas à l'époque de Daco, de product market fit. Alors, qu'est-ce que c'est le product market fit? Ça, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent, et j'aime pas forcément utiliser des mots anglais, mais je connais pas vraiment d'équivalent français de ce concept-là. Mais l'idée, c'est de dire, quand on crée un nouveau produit, quand on utilise une nouvelle technologie, on développe quelque chose de nouveau, normalement, on n'a pas à évangéliser le marché. On n'a pas à expliquer au marché à quoi ça sert. Il faut que ça réponde à un besoin tellement fort, une douleur tellement forte, même une niche, mais quelque chose de tellement évident que ça doit être évident. Et si on cible bien le client, normalement, ça doit vendre, certes avec un peu d'effort, mais on ne doit pas nager à contre-courant. Et avec Daco, on a réussi à créer une PME qui était rentable, qui rapportait pas mal d'argent, mais à chaque fois pour vendre, on ramait vraiment à contre-courant. Pendant des années, on a dû éduquer le marché. Et c'est finalement que peut-être un an ou deux ans après la vente à la Vente Privée que j'avais des messages sur LinkedIn qui me demandaient de déployer des choses équivalentes à Daco chez d'autres clients. Donc, c'est pas normal. Normalement, on n'a pas à faire ça. Et donc, je dois reconnaître qu'à l'époque, on n'avait pas forcément le product market fit. Alors, pourquoi? Probablement parce qu'en fait, on a créé cette entreprise sur la base d'une vision qu'on avait, qu'on a acquise quand on était consultant en stratégie, quand on a travaillé pour un certain type de client, et peut-être qu'on aurait dû pousser encore plus l'étude du marché, peut-être qu'on aurait dû aussi mieux comprendre la structure de prix à adopter, peut-être qu'on était un peu cher à l'époque, etc., etc. Et surtout, en fait, peut-être qu'on aurait dû prendre davantage d'infos autour de nous avant de se lancer, et c'est pas grave, maintenant on fait mieux, et c'est ce que tu as fait d'ailleurs avec Réuni et avec le podcast, qui est certes deux entités différentes, mais grâce au podcast, j'ai le sentiment, et je veux bien que tu me dises ce que t'en penses, mais que t'as pu collecter énormément d'infos sur les erreurs à pas commettre et tout, et ça je dois reconnaître que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait.
Je te confirme, le podcast a été un super outil, mais malgré ça, tu fais quand même des bêtises, hein, tu fais quand même des conneries, donc c'est pas évident.
Bon, ça empêche pas, c'est clair, on en fera toujours, et à la limite, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que quoi qu'il arrive, on est dans un océan d'adversité, mais voilà, je pense que là, par exemple, avec le nouveau projet que je suis en train de développer, je vois que la vitesse d'itération est différente et surtout, on n'a pas besoin d'expliquer à quoi sert ce qu'on fait, c'est très différent. Donc, on passe assez vite sur des négociations plus d'ordre commercial, sur des détails du contrat, et c'est bon signe. En fait, c'est comme ça que je sens maintenant qu'il y a peut-être un meilleur product market fit avec les nouvelles choses que je développe plutôt que les anciennes. Mais c'est normal, c'est de la maturité et en sortie d'école, en sortie d'études, on n'est pas forcément apte à sentir ça directement. Les meilleurs le peuvent, mais moi, je faisais peut-être pas partie de ces gens-là. Ce qui change aujourd'hui avec les quelques projets sur lesquels je travaille, c'est effectivement cette capacité plus forte à ce qu'on appelle itérer, c'est-à-dire à collecter de l'information de la part des clients ou des éventuels interlocuteurs qu'on peut avoir. Et en fonction de ce qu'ils disent, on fait le tri, bien sûr, mais on est mieux capable d'ajuster le produit et donc ça va beaucoup plus vite. Bon, il y a aussi d'autres petits éléments de productivité qu'on a intégrés et on pourra aussi en parler. Je pense notamment au no-code. On en parle beaucoup en ce moment. Moi, je suis un ingénieur, j'aime bien coder avec mon équipe, etc. Mais il y a quand même des zones où on n'a aucune valeur aujourd'hui à écrire du code. Et je pense notamment au site Internet. Il n'y a plus de valeur de coder un site Internet classique, hein, une landing page de jeune entreprise. Ouais. Maintenant, on n'a pas le temps de le faire. Il faut l'automatiser, quoi. Voilà.
Bien sûr. OK. Très bien. Bah, sur Daco, je pense qu'on a fait la synthèse, on a tourné la page. Donc toi, tu es resté chez Vente Privée pendant pratiquement 4 ans. Oui. Là, en parallèle, toi, tu disais que tu développais d'autres projets pour... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Paul, tu es quand même un hyperactif et qui a toujours 10 000 idées à la seconde et un cerveau en ébullition. Qu'est-ce que tu as fait en parallèle? Quels ont été les projets que t'as développés en parallèle?
Alors, je pense que je suis pas forcément hyper actif. J'ai une vie assez calme, mais c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées et j'aime bien les tester, quoi. Le meilleur moyen de savoir si c'est une bonne idée ou pas, c'est de la créer en petit format, de voir si ça marche et de la faire grandir. Bon, je sais que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais je l'ai beaucoup fait, notamment par exemple dans tout ce qui est blockchain. Moi, je suis pas forcément un professionnel de la blockchain, mais j'ai beaucoup testé de choses à partir justement de Daco de 2016-2017 et j'ai appris plein de choses. En tout cas, oui, quand j'étais chez Vente Privée, bah, c'est vrai que en déployant la technologie de Daco chez Vente Privée, j'avais plein d'idées qui émergeaient. Et puis, moi, j'ai toujours un peu cette vision personnelle, hein, mais un peu cardinale, de aujourd'hui, bon là, j'ai 32 ans, à 35 ans, moi, j'aimerais bien, si possible, être le plus indépendant possible, en tout cas, avoir mon activité qui tourne et qui me permette de vraiment déployer n'importe quel type de projet de manière autonome. Donc c'est un peu ma vision personnelle, je demande pas à tout le monde de l'avoir, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc je me pose la question chaque jour de me dire comment je peux atteindre ce petit objectif intermédiaire de vie. Voilà. Donc quand j'étais chez Vente Privée, c'est vrai que je me suis intéressé à beaucoup de domaines. À partir de 2019-2020, par exemple, j'ai été très intéressé par le fait de me dire l'outil qu'on a chez Vente Privée, notamment d'extraction de données. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté pour le déployer chez eux et de créer la même usine qu'on avait chez Vente Privée. Et donc, voilà, de créer un outil comme ça d'extraction de données généralisé. Donc, je l'avais proposé avec mon équipe plusieurs fois à Vente Privée, hein, de le créer en joint venture. Puis finalement, ça s'est pas fait. Et donc là, aujourd'hui, je développe un premier projet donc qui s'appelle Stableur.tech. Et donc, c'est un outil d'extraction de données généralisé pour les entreprises. Donc voilà, qu'on soit dans le e-commerce, l'immobilier, la blockchain ou quelques domaines que ce soit, de plus en plus, on a besoin d'accumuler énormément de données externes pour la structurer, faire des analyses et améliorer le business. C'est une évidence. Et donc, nous, on fournit un outil qui est stable et industriel pour ces entreprises. Donc, on s'adresse pas forcément à des individuels, parce qu'il y a déjà des outils d'extraction de données pour les growth hackers, etc., mais vraiment pour des grandes entreprises qui veulent avoir une infrastructure stable, respectueuse des lois, etc. Donc, ça, c'est le premier projet. Donc, on l'a développé en partant de Vente Privée. Tout en étant chez Vente Privée, je me suis beaucoup intéressé aussi, comme beaucoup, hein, mais au Web3 et notamment aux univers virtuels, aux métaverses. Alors, moi, je suis très intéressé par le domaine des métaverses parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a que deux cas d'usage assez limités qui sont montrer, regarder d'une part et jouer de l'autre. Et donc, la plupart des opérations qu'on fait aujourd'hui dans le métaverse, c'est principalement de l'image, du marketing, du gaming, mais c'est pas encore hyper développé. Cela dit, je pense que dans un futur assez proche, on va avoir des choses tout à fait intéressantes qui vont émerger en matière de collaboration. Moi, je crois beaucoup au Zoom, l'équivalent de Zoom en 3D. En fait, des designers peuvent collaborer à distance sur des objets, les amender, etc. Bon, sans être dans le Iron Man, mais il y a beaucoup de valeur à ça. Je crois beaucoup aux applications industrielles. Par exemple, la simulation de magasins, de retail, la simulation de lignes de production industrielle. Et donc, je pense que si on veut s'intéresser à ces sujets-là, il faut démarrer tout de suite la construction d'expériences dans le métaverse, même si les cas d'usage sont limités. Donc, en 2020, avec mon petit frère Adrien, on a commencé à explorer notamment, par exemple, un métaverse qui s'appelait CryptoVoxel. Et je raconte cette histoire parce qu'elle est un peu marrante. On avait travaillé avec Sophie Abria de Exhibition Magazine, ainsi que Boris Sauvigny, et on avait créé une fondation d'art dans CryptoVoxel. Donc vraiment, à l'époque, tout le monde s'en foutait. Il y avait personne qui allait sur ces univers-là. Bon, quasiment personne, que des geeks. Et donc, on a construit une sorte de grand bâtiment florentin brutaliste dans le métaverse. Et dans la nuit, on a eu trois visites avec des gens qui nous demandaient est-ce que je peux avoir le même bâtiment. On a eu une querelle de voisinage parce qu'on avait construit un mur végétal qui cachait un autre bâtiment, une cigarette pixelisée dégueulasse, etc. Bref, on a eu une querelle de voisinage. Et avec Adrien, on s'est dit, franchement, si déjà à ce stade-là, on a des querelles de voisinage, c'est des déclarations d'intérêt cachées. Il y a un truc à faire dans ce domaine et les marques, peut-être un jour, seront intéressées et peut-être un jour auront un siège dans le métaverse. En tout cas, c'était une intuition qu'on avait. Bon, beaucoup d'intuitions que j'ai, c'est de la daube, hein. ça meurt, etc. Mais là, avec Adrien, on était vraiment convaincus. Et on en a parlé à des amis qui étaient aussi furieux que nous, puisque c'était des Français qui avaient créé en 2013 la première agence de marketing en Birmanie, quand la jungle militaire avait desserré les boulons. Donc ils s'étaient dit, plutôt que de créer une énième agence de marketing en France, créons-la dans un océan bleu qu'est la Birmanie. Et donc, ils ont introduit des marques comme Kellogg's, Coca-Cola, etc. en Birmanie. Et donc, là, comme la junte militaire avait à nouveau resserré les boulons, ils ont perdu leur magnifique entreprise de quand même 100 employés hein, qu'ils avaient créé là-bas. Ils sont revenus en France et on s'est adossé parce que eux, ils ont la structure, l'organisation pour faire un business d'agence. Et donc, ça, c'est le deuxième projet que je contribue à développer à part Tableur. Ça s'appelle BEM Builders. Et donc, c'est une agence qui aide les marques à s'implanter dans le métavers. Et on a déjà toutes sortes de clients. Vous avez peut-être entendu parler de Carrefour qui a créé des terrains, enfin qui a acheté des terrains dans Sandbox. Bah, c'est nous qui construisons. Leader Price, on travaille pour Orange, Publicis, vraiment beaucoup d'acteurs différents. Vraiment, on est leur pont en attendant justement d'avoir davantage d'applications. Et donc, on a tout un département R&D qui apprend ça. Et enfin, le troisième projet que je développe, on pourra développer un peu les différents aspects, mais juste pour faire une overview, le troisième projet, je sais que Pierre-François Lelouette en a vraiment très gentiment parlé dans son interview et ça m'a beaucoup honoré, mais c'est donc mon studio artistique donc qui s'appelle Aurèse Vétier, c'est un nom et un prénom généré par IA. Et en fait, chez Aurèse Vétier, j'utilise toutes sortes d'algorithmes, les mêmes en fait finalement que j'utilise pour le business, je les repousse dans le retranchement pour essayer de voir comment on peut générer des nouveaux textes, des nouveaux objets aussi, des sculptures en bronze générées par IA, des peintures, etc. Et c'est la partie créative, mais qui n'est pas du tout gadget. C'est-à-dire que vraiment pour moi, j'ai un peu besoin sans arrêt de ce balancier entre vraiment application business, tech, etc. et l'art qui pour moi est une forme de recherche formelle très importante. Donc là aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis vraiment très heureux dans mon travail parce que je suis dans un domaine qui est finalement pas si large que ça. Je fais plein de choses, mais c'est toujours autour de la donnée, de son traitement, etc. Donc j'ai développé une expertise. Je pense avec mon équipe, on est plutôt bon à ça et on est payé pour. C'est important. Ça m'enthousiasme, mais sans parler d'ikigai, c'est vrai que tous les paramètres sont un peu comme ça.
Redis-nous ce que c'est que l'ikigai.
Alors, l'ikigai, je suis pas un expert absolu, mais c'est une définition, en fait, où on dit, il y a quatre grands aspects. C'est le fait de faire ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin. Ce pourquoi on peut être payé, parce que sinon, si le monde en a besoin, mais qu'on peut pas être payé, c'est juste une vocation, entre guillemets, et ce en quoi on est doué. Donc, ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on peut être payé, et ce en quoi on est bon. Et quand on arrive à finalement être dans ces quatre paramètres, entre guillemets, on est plus que dans la passion, plus que dans la profession, dans la vocation ou la mission, on est vraiment dans la fusion des quatre. Et voilà, on n'est pas forcément en permanence dans la vie, dans un ikigai, mais c'est vrai que c'est un équilibre qui est assez agréable et qui donne envie de se lever le matin. Il faut se connaître. Hein. Au fil du temps, moi, je me suis rendu compte que je suis pas du tout une diva, mais je me rends compte que j'aime pas trop être salarié. Donc, j'accepte un peu le risque de pas être sûr de gagner ma vie. Mais demander à 12 personnes différentes l'autorisation d'avoir une agrafeuse, moi, c'est pas mon truc. Mais je dis pas que c'est le truc de, voilà. C'est la vie. Mais parfois, on est obligé parce qu'on est dans des grandes entreprises, on doit respecter des process. Je suis à fond pour le respect des process et d'être bien carré, mais être coincé dans le développement de technologie, moi, je n'aime pas être comme ça. Donc, chacun son truc.
Moi, ma première question concernant ces trois nouvelles activités, c'est dans quelle mesure tu es impliqué dans chacune et comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour... bah pour être bon dans les trois, quoi, et de pas courir trois livres à la fin.
Alors, ça, c'est vrai que c'est important parce que ça peut être une charge mentale assez forte. Alors, moi, je suis extrêmement impliqué dans ce tableur. C'est mon activité principale de très loin. Donc, je suis associé avec Anis Gandoura, avec qui j'étais déjà associé dans Daco, et un nouvel associé qui est un ami de longue date qui s'appelle Romain Evin et qui est un très grand expert des ventes logicielles. Donc ça, c'est mon activité principale. Pour BEM Builders, je suis, mon titre là-bas, c'est Technological Advisor. Donc, je résous en fait les problèmes technologiques qui n'arrivent pas toutes les 5 minutes non plus. Je participe aussi au processus de financement. Voilà, si un jour on a une levée de fonds, je m'en occuperai également un peu plus, en tout cas en détail. Voilà, ça, je suis actionnaire, je suis actif, mais je suis pas dans le développement quotidien. Il y a toute une équipe qui s'occupe de l'activité quotidienne. Et ça, c'est important, avec le temps, d'arriver à développer des activités où on est un peu asynchrone, c'est-à-dire qu'on travaille, mais c'est pas forcément l'activité de la société et sa survie n'est pas forcément directement liée à notre travail à un instant T. La troisième activité, Aurès Vétier, en fait, l'avantage, c'est que ça, je peux travailler quand je veux dessus, le soir, le week-end, certains jours que je pose exprès pour ça. Donc ça, c'est asynchrone. En fait, je me vois avec Aurès Vétier, en fait, je produis, entre guillemets, un stock de travaux quand je veux, et ensuite, c'est vendu de manière asynchrone, donc j'ai pas besoin de, pareil, travailler à un moment donné pour être sûr de vendre. Et puis, encore une fois, c'est de la recherche. Donc, en résumé, je dirais 80% du temps, je suis sur ce tableur, 15% Aurès Vétier en volume de temps, et 5% BEM Builders. Alors, quand je dis 15%, ça veut dire que certaines semaines, je fais que du Aurès Vétier à fond, et puis des semaines où je suis moins dedans, parce que voilà, ça dépend des cas. Et puis, le dernier truc que je voudrais dire, c'est que moi, tous mes trajets à Paris, je les fais en vélo. Et ça paraît être un détail, mais pour les gens qui font du vélo, vous comprendrez très bien ce que ça veut dire. C'est que quand, par exemple, je vais à mon atelier de Aurès Vétier qui se situe à Ivry, bah, en fait, j'ai 30 minutes de vélo aller et retour. Et en fait, je réfléchis à tout ce que je veux faire pendant ces 30 minutes-là. Et donc, quand j'arrive, je sais exactement ce que je veux faire, ce que je veux dire, etc. Là, c'est pareil, on se parle. Juste avant, j'ai fait du vélo. Bah, j'avais un peu réfléchi à ce que j'avais envie de partager avec toi et l'audience de l'entreprendre dans la mode. Ça permet de se poser, de réfléchir.
Ouais. Je te rejoins. Moi-même qui fais du vélo, c'est un vrai truc de faire du vélo. Ça permet de prendre de la hauteur, de s'aérer, oui, et de faire du sport et d'anticiper le rendez-vous d'après.
C'est fou, hein,
Sur ton activité au Aurès Vétier, aussi une autre question sur ces trois activités. Aujourd'hui, ces trois activités te permettent de gagner des sous, de vivre, de survivre, ou est-ce que tu vis sur tes économies là?
Alors, aujourd'hui, donc Stabler, c'est une entreprise en formation, hein, donc on a déjà réussi à signer ce qu'on appelle des POC, donc des Proof of Concept. Ça veut dire que des entreprises testent actuellement notre solution avec des critères très clairs. Si ces critères sont vérifiés, ils deviennent clients. Donc ça avance bien, mais je peux pas encore tirer un salaire Stabler. BEM Builders, c'est une entreprise qui est vraiment florissante, qui est en train de bien se développer. Là, pour l'instant, je ne me tire pas un salaire de BEM Builders parce que je préfère que les employés qui soient actifs au quotidien se payent en premier. Et puis, bon, quand viendra le moment, je toucherai soit des dividendes, soit un salaire de principe, mais c'est pas l'objectif. Aurès Vétier, en 2021, ça a vraiment très bien marché. J'ai vendu beaucoup de travaux. Donc, en toute transparence, si par exemple aujourd'hui je devais faire que ça, je pourrais vivre 60% de l'année, on va dire. Donc c'est assez fantastique et ça me rend très heureux. Moi, je raisonne pas je suis pas obsédé par les ventes, hein. Quand on est dans l'art, c'est pas forcément ça l'objectif, mais force est de constater que les sculptures, les peintures générées par IA, ça intéresse pas mal de monde. Je fais des expos dans des musées, etc. Donc c'est chouette, ça se développe avec l'aide de très belles galeries, et d'entrepreneurs aussi dans ces galeries, comme Béatrice Mazzi chez Spaceless Gallery, comme Darmo avec Alexis de Bernet et Marius Jacob, pour ne citer qu'eux, et plus récemment avec Victoire de Portales et le projet 91-530. Donc ça avance bien. Et donc en gros, 60% de mon revenu vient de là et 40% pour l'instant sur mes économies. Mais je pense que assez vite, la profitabilité sera au rendez-vous pour sableur et me permettra de me payer comme avant.
Très bien. Ce que je trouve assez extraordinaire aussi dans ton profil, Paul, et c'est des profils qui sont assez rares, c'est que tu t'es pas mis une étiquette sur le front. T'es à la fois artiste, oui, businessman, chercheur. D'ailleurs, comment tu te présentes au monde quand on te rencontre pour la première fois? Est-ce que tu te présentes comme artiste dans le monde de l'art, comme businessman dans le monde du business? Comment tu fais?
Bah, c'était pendant beaucoup d'années, en fait, c'était très dur pour moi parce que j'étais un peu dans un environnement social où dans chaque environnement, on me demandait en quelque sorte de choisir. Notamment quand j'ai commencé à travailler après mes études, j'ai été consultant en stratégie. Donc, c'est un travail très formel où on doit s'habiller en costume. Donc, on apprend à parler à des patronnes, des patrons. Mais en même temps, personne comprend qu'on soit en même temps photographe ou artiste. Et de la même façon, quand j'allais travailler chez Purple, parce que je faisais ça quand j'étais étudiant, les gens, ils me prenaient pas pour un furieux, mais ils comprenaient pas trop ce que je foutais là. Mais dans ma tête, et c'est ça le plus important, c'était extrêmement clair. C'est-à-dire que j'avais pas envie de choisir, j'avais pas envie de tout faire, mais j'avais envie d'avoir un pied dans la tech, d'avoir un pied dans l'art, et d'être légitime dans les deux. De vraiment faire un travail en profondeur légitime, parce que déjà il y a 10 ans, j'avais l'intuition personnelle, après je demande pas à tout le monde de l'avoir, mais je savais qu'il y avait une convergence qui était une convergence subtile, qui n'était pas ce qu'on avait fait jusqu'à présent, qui permettait de tirer le meilleur des deux mondes. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, Adrien, moi, quand je me lève le matin, je sais ce que je dois faire, donc je l'ai fait. Et puis, peu à peu, c'est vrai qu'autour de nous, l'histoire, elle se raconte de mieux en mieux. Et pour répondre à ta question, comment je me présente aujourd'hui, c'est vrai que c'est marrant parce que je me suis posé la question. Puis même, tu vois, quand tu travailles avec des gens autour de toi, même des psys, tu parles, tu réfléchis et tout. Et c'est marrant parce que, tu vois, je pourrais même pas me définir comme artiste, parce que artiste, c'est pas vraiment une fonction. Tu vois, à la limite, une fonction, c'est sculpteur. Ça, c'est concret, tu vois. Ingénieur, c'est pas vraiment une fonction, c'est une vocation, c'est comme artiste. Donc peut-être je pourrais dire que je suis développeur ou je construis quelque chose. Donc dans les deux cas, peut-être ça serait sculpteur. Je pourrais dire ça si je voulais être un peu poétique. Je suis un sculpteur de business. Bon voilà, je vais pas te raconter des trucs comme ça, mais voilà, je le verrais un peu comme ça. Mais pour répondre le mieux à la question, en fait, quand j'ai écouté Pierre-François Lelouette qui racontait un peu ce que je faisais, je me suis dit, enfin, ça fait vraiment plaisir parce que j'aurais pas mieux décrit. Tu vois, il expliquait intersection, art, business. Et finalement, ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que moi, au quotidien, je faisais ce que je voulais. J'avais pas forcément réfléchi à comment j'allais raconter mon histoire personnelle. Mais de plus en plus, les gens avec qui je travaille, dont Pierre-François fait partie, ils le comprennent. On travaille ensemble, on réfléchit ensemble et c'est tout ce qui importe. Voilà. Pour terminer là-dessus, moi, je suis pas vraiment dans une optique. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le sont pour des raisons de marque, mais moi, je suis pas vraiment dans une optique de créer ma marque personnelle, que les gens me connaissent. Je m'en fiche un peu. J'aimerais bien que les gens qui sont censés travailler avec moi me connaissent bien et qu'on, voilà. Mais je cherche pas à créer une légende. J'en ai rien à faire d'être connu. Ça m'intéresse pas. J'ai plus un profil de conseiller, d'éminentrice, de numéro 2. Moi, ça me va très bien et je me sens bien dans ce fonctionnement-là. Voilà.
Mais ce qui est marrant quand même, c'est, une fois que tu as dit ça, c'est que tu cherches pas ce personal branding, mais néanmoins, tout le monde te connaît. Enfin, en tout cas, dans l'industrie dans laquelle je navigue, l'industrie de la mode, l'industrie de ce podcast, tout le monde sait qui c'est que Paul Mougineau. Et souvent, les gens me parlent de toi. Donc c'est peut-être ça la solution, c'est de pas trop s'en préoccuper, de faire et finalement les gens te connaissent malgré tout. Une autre question, un truc qui m'a marqué, c'est que tu dis il faut à un moment donné il faut choisir aussi, faut choisir, on peut pas tout faire. Pourquoi est-ce qu'on peut pas tout faire? Toi, tu démontres bien qu'on peut tout faire finalement.
Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, effectivement, je fais des activités au quotidien qui sont assez différentes, mais c'est toujours un peu dans le même secteur d'activité. C'est toujours autour de traitement de la donnée, création, etc. Donc, quand je travaille et que je passe d'un sujet à l'autre, justement, j'ai pas le sentiment de sauter du coq à l'âne ou de faire le grand écart. Pour moi, c'est très cohérent dans ma tête. J'ai mes marottes. C'est très cohérent. C'est vrai qu'autour de moi, quand j'ai commencé à travailler, on m'a souvent dit « tu pourras pas tout faire, il faut choisir ». Donc effectivement, je suis allé un petit peu à l'encontre de ça et j'ai fait un peu ce que je voulais. Et je pense notamment au secteur de l'art. Dans l'art, c'est très rare d'avoir des artistes qui sont aussi autre chose, pour l'instant. Pour l'instant. Mais par exemple, quand on regarde des artistes qui sont dans la communauté crypto, le Web3, enfin, ces nouveaux médiums qui émergent, il y a beaucoup d'artistes qui ont plusieurs activités et ces différentes activités alimentent, informent leur travail artistique. Et moi, je me vois vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes que je découvre dans le business, que je me retrouve à utiliser pour générer des nouvelles feuilles que je vais mettre sur mes sculptures en bronze. Et inversement, il y a des algorithmes auxquels j'ai accès en étant artiste, qui me permettent de réfléchir pendant 6 mois et ensuite on y travaille, on se dit est-ce que ça pourrait pas nous servir dans le cadre du traitement de la donnée, etc. Donc vraiment ça communique totalement. Je pense que la seule chose c'est qu'il faut pas se disperser et c'est vraiment différent de dire je fais plusieurs choses qui sont cohérentes et qui me font grandir et je me disperse. On peut pas être médecin et avocat et être bon dans les deux parce que c'est des secteurs qui sont tellement différents et qui nécessitent tellement de cerveau que c'est complexe. Mais en revanche, on peut être on peut avoir plusieurs fonctions différentes qui nous enrichissent. Voilà. Il ne faut pas avoir le sentiment de faire le grand écart, de s'épuiser, de bouffer notre énergie. Mais j'encourage tout le monde à être hybride, en fait, parce que c'est ça qui permet de réfléchir.
Et le monde de l'art, d'ailleurs, d'un point de vue extérieur, a l'air assez... assez fermé finalement et assez sectaire et assez à mettre les gens dans des boîtes. Est-ce que tu aurais pu être artiste peintre ou artiste sculpteur et faire ce que tu fais par ailleurs avec BEM Builder et Stable?
En partant de par exemple une formation d'artiste?
Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu aurais pu développer une activité d'artiste après, comme tu l'as fait après Daco avec Aurès Vétier, mais sur un médium beaucoup plus classique, conventionnel d'une certaine manière. Est-ce que tu aurais pu être peintre, sculpteur, artiste conceptuel, etc. Et être accepté comme tu es accepté dans le monde de l'art?
Alors, je ne sais pas si je suis accepté dans le monde de l'art, mais en tout cas, les pièces que je crée sont des peintures, des sculptures en bronze. Donc, j'ai tout un travail physique. En ce moment, je fais une exposition à la Fondation Brownstone, donc, qui est en train de se terminer. Et ce que je montre, c'est des peintures de 1,50 m de haut, des pièces en bronze de 4 mètres de haut également. Enfin, c'est des pièces très physiques. Donc, la réponse est oui. Je peux utiliser des médiums traditionnels, c'est même ça qui m'intéresse, mais souvent finalement c'est un peu le reflet de mon existence, c'est que ces pièces-là, c'est le résultat d'énormément d'allers-retours entre un espace virtuel dans lequel on peut manipuler beaucoup de concepts abstraits et l'espace réel où quand on le reprojette en 3 dimensions, on perd de l'information mais on gagne du tangible, on peut le toucher, on peut tourner autour et ça c'est quand même assez excitant.
Très bien.
Je me permets juste pour la partie acceptation dans le monde de l'art. Pour l'instant, ça se développe vraiment bien, mais c'est vrai que quand je fais des expositions, j'arrive en fait à, c'est assez merveilleux et c'est aussi grâce aux bons galeristes avec lesquels je travaille, j'arrive à faire venir des galeristes traditionnels ou des responsables de frac, etc. Et en fait, une fois, je vais pas citer de nom bien sûr, mais j'ai eu un visiteur très institutionnel qui est venu et qui m'a dit j'aime bien vos sculptures en bronze mais pour vous faire accepter des institutions ça va être difficile. Et je lui dis qu'est-ce que vous entendez par là difficile? Il dit vous êtes pas vraiment artiste, vous avez pas fait d'école d'art, vous avez 30 ans, vous avez pas les codes. Et en fait moi ça a produit chez moi quasiment aucune émotion. À part, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi cette personne dit ça? Et je pense, on s'en reparlera dans 5 ans, mais je pense que c'est un peu symptomatique, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu ce type de réflexion aussi dans l'entrepreneuriat, quand on a un profil très atypique qui se met à créer une entreprise, première réaction, c'est un peu épidermique de se dire ça va pas marcher. C'est vrai que moi, dans beaucoup d'expériences de ma vie, on m'a souvent dit que ça allait pas marcher, puis ça a fini par marcher, donc il faut pas s'inquiéter, quoi. C'est intéressant. Il faut prendre en compte ces feedbacks-là en se disant, contrairement à ce que tu disais, moi, je pense que je suis pas du tout pour l'instant accepté dans le monde de l'art, et je pense qu'une manière de mesurer la réussite, ça sera le jour où j'arrive à montrer des pièces dans un frac, dans un lieu très institutionnel. Et je le fais déjà, en quelque sorte, parce que j'interagis avec des curatrices et des curateurs. Je ne suis pas totalement déconnecté de ce monde-là, mais il y a quand même encore une petite réticence. Voilà. Après, moi, tous les artistes que j'aime, enfin, pas tous les artistes, mais beaucoup d'artistes que j'aime, ils ont eu un profil très hybride. Hein. François Morlaix, pendant des années, il a bossé à l'usine. Agnès Martin, elle a commencé à montrer ses pièces à 40 ans. Bon, voilà, chacun a son parcours, quoi. Donc, faut pas s'inquiéter. Et ça, c'est un message aussi, au lieu, plutôt que de raconter ma vie aussi, si je peux transmettre quelque chose. En fait, si on écoute tout ce que les gens nous disent, surtout ceux qui ont pas forcément eu d'expérience entrepreneuriale ou qui ont pas vraiment créé des choses, si on écoute tout ce que les gens nous disent, on s'assoit sur une chaise, on attend la mort. Après, on peut avoir envie de faire ça. Moi, j'ai pas envie. Donc, j'écoute ce que les gens disent, j'écoute encore plus ce que les gens qui ont vraiment créé quelque chose disent, je vois si ça m'intéresse, si je prends en compte, et après, si je suis un peu jaloux, si je vois que ça a bien marché, etc. pour eux, j'essaye de me dire comment je peux implémenter pour moi. Mais voilà, si on écoute tout ce que disent les gens, on s'en sort pas, quoi.
Ouais, c'est clair. Et justement, ce qui est intéressant quand même, c'est que il y a, t'as ce côté, en fait, enfin, tu dis ça et en même temps, tu veux être accepté par le monde de l'art. Pourquoi c'est important d'être accepté par le monde de l'art, toi?
Alors, ça, c'est vrai que c'est une vraie ambivalence que je reconnais hein, chez moi, cette espèce de c'est presque un déséquilibre, en tout cas au sens voilà, vertige, équilibre, etc. Moi, je pense, en fait, ce qui est important pour moi, c'est que l'art, en fait, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre, c'est-à-dire que il y a un tronc, parfois même plusieurs troncs, il y a des branches, les artistes se rattachent à une branche ou à une autre. Et cet arbre, en fait, dans mon esprit, mais peut-être dans seulement mon esprit, il est un peu immortel. C'est-à-dire que une fois qu'on est sur une branche, on hérite de quelqu'un, ou alors on s'en sépare justement. On a des gens qui peuvent éventuellement aussi s'inspirer de notre travail, et on est là pour un long moment. C'est un peu comme quand on publie un livre et qu'il est à la BnF. Il est là pour toujours. On le dépose, c'est un dépôt légal, on le laisse à la BnF, il est là pour toujours. Et en fait, j'aime bien cette notion de durabilité, laisser une trace. Et voilà, faut que je sois honnête avec moi-même. J'aime bien l'idée de laisser une trace, même toute petite, même discrète, même que voilà, seulement 3 personnes s'en rendent compte, mais j'aime bien cette idée. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans les travaux, je fais assez peu de travaux numériques. J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait des NFT où j'ai un peu utilisé des NFT pour injecter de la poésie dans la blockchain et tout. Mais en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire des sculptures en bronze, des œuvres, voilà, avec des matériaux qui me survivront, quoi. Et ouais, ça m'enthousiasme beaucoup cette partie durabilité.
Parce que hyper intéressant. C'est vrai que finalement tes héros, enfin tes héros si on peut les appeler héros, mais quand tu parles de Morlaix ou de Martin, Agnès Martin, c'est des gens qui ont fait des choses physiques, enfin qui ont fait des œuvres physiques. Parce que souvent, tu vois, moi je me dis, moi aussi j'aspire parfois à avoir une activité d'artiste et à développer mon propre média, etc. Et c'est vrai que mes artistes préférés, bah, ça va être un Morlaix, ou ça va être un Sterling Ruby, ou un Matisse, etc. Donc je fais exprès de prendre des choses très différentes et de périodes différentes. Mais c'est à chaque fois des gens qui ont fait des œuvres, enfin de la peinture, des œuvres physiques. Et on aurait tendance, je pense, j'aurais tendance à reproduire, tu vois, et être sur le même type de médium. Et en même temps, il faut vivre avec son époque et il faut utiliser les médiums d'aujourd'hui. Quand je vois le travail de David Hockney sur ses peintures à l'iPad, quand je vois le travail de David Hockney sur son travail avec les iPads, je trouve ça assez intéressant. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Quel est ton avis là-dessus?
Alors, c'est un avis. Il y a deux choses que je pourrais dire par rapport à ça. Je trouve que ce qui est magnifique dans les parcours d'artistes, c'est que aucun parcours d'artiste n'est similaire à l'autre. Contrairement d'ailleurs à des parcours plus classiques, si on veut être consultant en stratégie ou banquier d'affaires, globalement, faut faire le top 5 des écoles d'ingénieurs ou de commerce, faut mettre des petits costumes smalto et raconter des trucs avec des autour de synergie et de due deal. Donc globalement, j'exagère un peu. Je vais peut-être me faire tomber dessus par beaucoup de. Mais il y a un pédigré, voilà. On peut pas vraiment dire qu'il y a un pédigré d'artiste. Peut-être que plus récemment, avec l'émergence d'écoles d'art qui qui crachent des volumes importants d'étudiants en sortie d'école, il y a peut-être plus un pedigree, mais quand on regarde les artistes, notamment de l'art conceptuel, je pense par exemple à Donald Judd. Donald Judd, c'est un critique d'art. Il a lancé Yayoi Kusama avec ses critiques et il a fait un art qui était très différent de Kusama d'ailleurs, et puis il est devenu artiste. Donc il y a énormément, chaque artiste a son parcours, et moi j'aime beaucoup lire des biographies d'artistes pour cette raison-là. De la même façon, il y a beaucoup de manières d'apprendre. Balthus, pendant des années, des étés entiers, il allait dans des églises italiennes, il copiait les tableaux pour se faire une main, et après il a développé son œuvre. Inversement, il y a des artistes comme Jeff Koons, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui utilisent des moyens industriels pour atteindre des formes de pièces que très peu de gens ont réussi à faire avant. Donc voilà, il n'y a pas de fonctionnement similaire. Je dirais simplement que peut-être, alors je ne prétends pas être un bon artiste, loin de là, mais en tout cas ma préoccupation, c'est que le gisement, en tout cas ce qui m'anime, ça soit quelque chose d'intérieur. Tu disais comment faire pour ne pas recréer Matisse, pour ne pas recréer etc. En fait, je pense qu'il faut connaître Matisse, il faut connaître les gens que tu aimes, sans les regarder, lire leurs écrits, absorber beaucoup de choses, absorber aussi beaucoup d'autres choses à l'extérieur, je sais pas, ce qui se passe dans la nature, les problèmes de société, les problèmes qui peuvent t'intéresser, tu digères et il va sortir quelque chose qui est hybride et qui vient de toi-même. Je dis pas qu'il faut raconter sa vie. Par exemple, je raconte des éléments de mon existence, mais je raconte pas forcément ma vie dans l'art, mais simplement je pense pouvoir dire que l'écosystème que je déploie, bah, il y a une esthétique, un discours, un élément qui est, si on m'enlève, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais souvent je le dis quand je suis interviewé dans des revues d'art, etc. Une de mes grandes préoccupations, c'est de ne pas réinventer ce qui existe déjà. Au sens, pour moi, que l'art, c'est une forme de recherche. Dans la recherche, il faut connaître ce qui a été fait, autant bien que mal. On ne pourra jamais tout connaître, mais savoir ce qui a été fait, comprendre un peu les mouvements, l'état de l'art de la recherche, et se dire qu'est-ce que je peux apporter en plus, comment je peux repousser le médium. Par exemple, dans les années 60, il y a déjà des artistes qui ont travaillé avec les ordinateurs, donc ça ne sert à rien de prendre un ordinateur et de lui faire générer des trucs sans réfléchir. Ça existe déjà, ça a déjà été fait. Et à l'époque, les gens ont dit la machine va être le prolongement de la main de l'homme et l'homme ou la femme va choisir les œuvres sur des critères totalement subjectifs. Ok. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, on atteint des nouveaux niveaux d'abstraction, de presque de pseudo-intelligence. On peut retrouver des nouvelles formes et tout. Donc ça change le discours. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'en utilisant ces nouveaux outils, en les combinant avec des métiers d'art, des choses très tangibles, on peut créer des formes, on peut avoir des sensations qu'on n'a jamais eues avant. Et c'est ça que je recherche en fait dans mon studio. Peut-être que je peux donner un exemple un peu précis, parce que c'est un peu rigolo.
Vas-y.
Mais par exemple, récemment, j'ai eu des petits soucis personnels, on s'en fiche, mais je me suis mis à travailler avec un psy. Et je me suis mis en conséquence de ça, un peu de manière inattendue, mais à faire des rêves très photographiques. Très, très photographiques, très marquants, parce que sans doute mon cerveau travaillait des trucs sans que je m'en rende compte, etc. Bon, l'inconscient, comme on dit. Et en fait, ces rêves, quand je me réveillais le matin, j'étais capable de les décrire avec des mots, mais j'étais incapable de me rappeler dans ma tête l'image que ça représentait, etc. Et c'est assez passionnant, enfin, je trouvais ça fou. Et en même temps, c'est il y a un an et demi, il y avait les premiers algorithmes d'IA qui sortaient où on pouvait passer d'une phrase à une image. Et maintenant, c'est sorti. Il y a même des Instagrammeuses qui l'utilisent. C'est assez incroyable. C'est rentré très vite dans la culture et tout. Mais à l'époque, ça venait d'émerger et tout. Donc, j'ai pris ces algos. Je les ai entraînés avec l'aide aussi d'ingénieurs avec qui je bossais. Et donc, je pouvais maintenant transformer un texte en image. Et j'ai décrit mes rêves à l'algorithme et ça m'a généré des images. Et c'était incroyable. Une fois, j'ai rêvé, par exemple, que j'étais un poisson qui se faisait décapiter par un couteau et qui avait aussi la main, et que j'étais à la fois le poisson, le couteau et la main qui tenait le couteau. Va représenter ça en image, c'est impossible. Mais c'était un rêve très fort, qui était très important pour moi. Je comprenais pas vraiment pourquoi, mais c'était très important. Et j'ai montré ça à une IA, je lui ai dit, il y a un poisson qui se fait décapiter, machin, avec un couteau, et la main et aussi le couteau et aussi le poisson. Et ça m'a fait une image incroyable. Incroyable que je vais montrer à l'automne, j'en ai fait des peintures et tout. Mais en fait, c'est pas surréaliste. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas dans le surréaliste. Ça, ça a déjà été fait. On comprend ce que c'est et tout. C'est pas du dessin automatique. C'est pas non plus juste du ganisme, enfin de la génération par IA sans réfléchir. Ça vient d'un gisement personnel. Et grâce à l'outil de l'IA, j'atteins une forme, j'atteins une visualisation, j'atteins quelque chose que j'aurais jamais pu faire tout seul, mais que sans mon impact personnel, ça aurait, tu vois, juste été une image. Et c'est ça que j'essaye de trouver, en fait. C'est cette espèce de vibration. Et j'ai essayé plusieurs fois. Au début, j'avais pas des images intéressantes. Et à un moment donné, je suis tombé sur une image et je me suis dit, ça, c'est mon rêve. C'est peut-être pas exactement ça que j'ai rêvé, mais c'est exactement ce que je veux montrer. Voilà. Donc, ça me, enfin, voilà, vous sentez peut-être dans ma voix que ça me passionne. C'est juste un exemple. Ouais. On peut le faire avec des, on peut le faire avec des images. On peut l'appliquer dans la mode. On peut réfléchir. Vous voyez, à chaque fois, c'est un peu un truc qui fait réfléchir.
Hyper intéressant. Le... Une dernière question sur ton activité d'artiste, et après on passe à tes autres activités. Mais bon, tout ça est très relié finalement, donc on parle un petit peu à chaque fois.
Tout est relié, bien sûr.
Tout est relié, donc c'est très cohérent. Quelle est ta stratégie pour être accepté par le monde de l'art?
Alors, moi, j'ai pas vraiment de stratégie comme artiste. C'est un petit oasis que je me garde justement pour et que je développe au fil du temps. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, cette activité-là sera mon activité principale. Aujourd'hui, objectivement, je peux pas en vivre, donc je peux pas faire ça à plein temps et il faut être objectif. Mais à terme, j'aimerais bien avoir un studio et le développer et que ça soit mon outil de recherche et que je fasse ça à plein temps. J'ai pas de stratégie. Là, ce dont je me rends compte, c'est que je fais de plus en plus d'expositions intéressantes, pointues. Grâce aux ventes que je réalise, je peux réaliser des pièces de plus en plus grandes, des installations de plus en plus ambitieuses. Je fais une expo, ma première expo dans un musée dans les Cyclades à Tinos cet été. Donc voilà, ça se développe. La stratégie que j'ai, c'est pas vraiment une stratégie, c'est une approche. C'est que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est réfléchir, parler à des gens du métier. Et donc, mes seuls interlocuteurs principaux, en tout cas au Resvétier, c'est des curatrices et des curateurs. Et donc, je parle avec eux, je réfléchis, et ça me permet, en fait, peu à peu, de participer à des projets, ça me permet aussi de les positionner sur des projets auxquels je peux participer, et donc on se rend des services, et peu à peu, je développe les projets comme ça. Voilà, c'est ma seule stratégie. Ensuite, là, je me rends compte quand même récemment que dans le boulot que je fais, j'ai quand même un gros boulot que d'habitude une galerie ferait, c'est-à-dire la partie communication où je suis pas forcément très bon, la partie vente, et ça je le fais un peu, heureusement je suis quand même aidé par des galeries avec lesquelles je bosse sur les différents projets ponctuels, et ça serait bien que je me trouve peut-être à terme une galerie pour m'aider à faire ce boulot, parce que j'aimerais bien me concentrer plus sur la création, mais je peux l'apprendre à le faire, il n'y a pas de problème.
Très bien, passionnant. Passons à Bem Builders. Donc ça fait 1 an et 8 mois d'après ton profil LinkedIn sur lequel tu travailles sur ce projet. Bon, tu nous l'as expliqué en préambule en quoi ça consistait, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu, diguer un peu dans le sujet? Ça fait partie de ce qu'on appelle le Web 3, etc. Et tout le monde a ce mot à la bouche en ce moment, et à la fois dans la mode et dans tous les autres business. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi t'en as compris et quels sont concrètement je trouve pas le terme, mais comment est-ce qu'on utilise cette nouvelle technologie là, quel est l'intérêt, pourquoi c'est important d'y aller maintenant le plus tôt possible, qui doit y aller maintenant et quelles sont les personnes qui doivent attendre un petit peu. Tu vois, je me dis demain, est-ce que Réuni a intérêt à aller dans ce truc là ou c'est pas du tout, c'est une connerie de faire ça, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, j'ai pas mal de petites questions comme ça sur ce Web3 et sur ce que vous faites avec Bem Builders.
D'accord. Alors, si je dois définir le Web3 en un mot, c'est un peu difficile, mais le Web 1, c'était un monde, c'était un Internet où finalement l'information était descendante, c'est-à-dire qu'on allait chercher de l'info sur des sites, et ça existe toujours cette version, hein. On va sur le monde, on chope des infos de ce qui se passe, etc., et terminé. Le Web 2, c'est un monde où on a les réseaux sociaux, on a les forums, etc. Donc, outre le fait de choper de l'info, on contribue. On écrit du contenu, on a les blogs, on a les réseaux sociaux, etc. Et donc, on a cette dimension aller-retour de l'information. Le Web3, ce qui rajoute, par rapport aux deux autres fonctionnalités, c'est qu'on a une dimension transactionnelle, c'est-à-dire que outre le fait de récupérer de l'info, de contribuer, on peut aussi exécuter des opérations numériques et de les certifier, etc. Donc c'est ce que ça permet de faire. Donc voilà, je pourrais donner plein d'exemples et on fait des formations qui peuvent durer jusqu'à 7 heures, mais ça permet en fait d'utiliser Internet comme un support de transaction, comme on a quand on va dans un magasin. Bon. Ça, c'est. Je vais très vite et désolé, peut-être que des plus grands professionnels encore du Web3 m'arracheront la tête, mais je voudrais pas passer deux heures à définir ce que c'est. En tout cas, c'est une technologie dont le cœur de fonctionnement, la technologie cœur est ce qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain, c'est un registre de transactions qui est actualisé au fil du temps comme un petit train où on rajoute les transactions suivantes. Et ça permet d'authentifier numériquement toutes sortes de choses. Pour une marque de mode, en fait, aujourd'hui, il faut constater, on n'a pas non plus énormément de cas d'usage du Web3. Il y a une frénésie d'adoption de cette technologie qui est probablement poussée aussi par des grands fonds d'investissement américains qui cherchent à créer un marché et à raison, hein, c'est hyper intéressant. Si je devais résumer en un mot ce que ça permet de faire pour une marque de mode, c'est que aujourd'hui, finalement, quand on parle de la femme Vuitton, la femme Céline, la femme Chloé, ou peut-être même la femme réunie, on sait pas trop de qui on parle. Alors, peut-être la femme réunie, vous savez mieux parce que vous posez des très belles questions dans des questionnaires et c'est top. Mais globalement, bon, c'est un peu un truc impalpable. Et puis, ça se trouve, la femme Vuitton, c'est aussi un peu la femme Chanel, etc., etc. Donc, c'est parfois un peu difficile d'interagir avec cette espèce de persona marketing dont on n'a pas vraiment idée. L'intérêt du Web3, c'est un intérêt, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est de dire, bah voilà, si je suis réuni, je donne un exemple qu'on aime bien, si je suis réuni, bah je me dis, je vais créer 10 000 NFT, donc ces objets un peu numériques qu'on peut stocker sur la blockchain, et je vais dire, si tu as ce NFT-là, tu es un peu la communauté cœur de réuni. C'est un exemple. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est un exemple. Les gens qui vont posséder ces 10 000 NFT, déjà la vitesse à laquelle ils vont les acquérir, se les transmettre et tout, ça va être une info intéressante. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser ces 10 000 ou plus, hein, 50 000, 100 000, bon, peu importe, c'est nous qui décidons. Mais ces gens-là, ils vont être plus que juste intéressés par Réuni. Ils vont être potentiellement acteurs s'ils font l'effort d'acheter cette espèce de carte de fidélité. Ça veut dire que c'est une communauté avec laquelle on peut interagir et qu'on peut utiliser comme un médium. Et c'est ça l'intérêt de cet objet numérique, c'est que c'est un médium. On peut leur offrir des cadeaux, on peut leur airdropper des choses. On peut utiliser ces objets numériques pour leur donner accès à des expériences soit physiques, soit numériques spécifiques sur mesure. On peut offrir des bons de réduction, etc. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt par rapport à juste être logué sur le site de Réuni ou avoir un compte ou une carte de fidélité, etc. Bah, la différence, c'est qu'en fait, cette carte de fidélité, déjà, elle peut évoluer dans le temps, on peut la faire, la transformer, offrir des expériences supplémentaires, et surtout, il y a un second marché. C'est-à-dire que quand on fait partie de cette communauté, la marque a intérêt à créer des aventures de plus en plus intéressantes pour cette communauté qui va s'élargir, et puis, en fait, quand quelqu'un veut sortir, bah, il peut revendre sa carte de fidélité, Réuni peut toucher des royalties et offrir l'expérience à quelqu'un d'un peu plus intéressé. Donc ça permet d'entretenir en temps réel une base fidélité particulièrement engagée. Voilà. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Tu posais la question pour qui c'est intéressant, pour qui ça ne l'est pas. Bon bah moi je sais pas. Ça, vraiment il n'y a pas vraiment de bonne réponse parce qu'on peut être un joaillier ultra niche. Et avoir envie d'offrir 10 000 accès à des gens qui jamais pourront s'offrir la joaillerie, justement pour ouvrir un peu l'audience. Inversement, on peut être une marque plutôt bien diffusée, mais qu'on n'a pas envie de rentrer dans le numérique. Donc j'ai difficilement une réponse à ça. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ce que ça permet de faire, c'est d'engager des gens dans des aventures un peu numériques. Et donc, il faut avoir envie de rentrer dans ces mondes-là.
Et aujourd'hui, les principales marques de mode, enfin les grosses marques de mode, celles qui se sont vraiment intéressées, elles le font comment, elles en font quoi, quelles ont été les applications concrètes des Gucci, des Louis Vuitton, des Balenciaga, oui, etc.
Alors aujourd'hui, donc il y a beaucoup de budget hein, qui est mis sur la table par beaucoup de maisons, notamment maisons de luxe. Les cas d'usage du Web3 sont quand même encore un tout petit peu limités, hein, on va pas se mentir, puisque on a encore plutôt, comme je disais tout à l'heure, hein, le fait de montrer des choses ou regarder quand on est un et puis la partie jouée. mais peu à peu, ça va se développer. Alors, pour répondre à la question, aujourd'hui, les pionniers un peu dans ce domaine, à mon sens, je citerai Gucci, puisque en fait Gucci, ils ont déjà au-delà de juste le Web 3, ils s'intéressent beaucoup à l'art numérique. Moi, typiquement, je m'en suis rendu compte parce que pour leurs 100 ans, en partenariat avec le magazine A Magazine Curated By, que je remercie d'ailleurs, on avait créé une édition du magazine spécial pour les 100 ans de Gucci, où j'avais fait des œuvres générées par IA et qui avaient donné lieu à des peintures. Et ils ont fait l'acquisition de peintures et de beaucoup d'autres œuvres numériques, donc il y a un vrai intérêt de la part de la maison. Et au-delà de ça, ils développent une narration où ils envoient finalement leurs usagers un peu numériques dans des aventures intéressantes. Et ils font plein d'essais sur plein de métaverses. Ils osent faire ça. Ils font plein d'essais sur plein d'univers virtuels pour essayer justement de trouver leur expérience idéale. Et j'ai beaucoup de respect pour cette approche. J'aime beaucoup aussi dans le luxe l'approche de Aura, qui est une approche beaucoup plus business. Ça va mieux répondre, je pense, à ta question. Donc Aura, c'est une blockchain qui a été développée dans le cadre d'un consortium quand même entre Prada Group, Richemont, Via Cartier et Louis Vuitton. Donc ils ont annoncé ça en avril 2021. Et ça va bientôt être, je pense, mis en production. Et l'objectif d'Aura, c'est tout simplement, d'une part, de reprendre le contrôle sur la partie authentification des produits, surtout prendre le contrôle sur le second marché, c'est-à-dire que quand des produits sont authentifiés et ont leur petit tag Aura sur la blockchain, on peut les tracer au fil de leur vie de second marché, comme on le fait pour une voiture d'occasion. Par exemple, quand on a une voiture d'occasion, si elle a été accidentée, elle rentre dans un fichier de l'État, on peut retrouver sa vie un peu, en tout cas les éléments marquants de la vie d'une voiture. Là, c'est un peu pareil avec des sacs, des accessoires. Donc ça, je pense que c'est un outil très business, qui va leur permettre de comprendre comment ça se passe par la suite, quelle est l'évolution du pricing des produits de seconde main, et pourquoi pas de reprendre encore plus le contrôle sur un secteur qu'ils n'avaient pas forcément maîtrisé jusqu'à présent. Hein. La seconde main, une fois que c'est sorti du circuit retail classique, on peut pas forcément le voir. Donc ça, je pense que c'est un cas d'usage très fort qui va se développer, et comme ils auront leur propre infrastructure blockchain pour le luxe, on peut imaginer que ça sera peut-être un standard qui permettra d'éditer des NFT, de gérer la fidélité, les comptes clients, etc.
Trop bien, hyper intéressant, merci beaucoup. Vous chez BEM Builders, vous en êtes où du développement? Qu'est-ce qui fera que ça deviendra un gros business? Enfin, vers quoi vous voulez emmener ce truc-là? Enfin voilà, quelle est la vision derrière BEM Builders finalement?
Alors la vision derrière BEM Builders, c'est d'être la plus grande agence française, européenne et si possible mondiale, spécialisée dans la création d'expériences dans des univers virtuels métaverses. Donc comment on a fait ça? Bah déjà, on s'est créé. Moi, je n'aime pas dire qu'on est la première, parce que tout le monde dit qu'ils sont les premiers, puis c'est jamais vraiment vrai. Et là, il y a des agences qui se créent en 2022 qui disent « je suis la première agence métaverse, c'est n'importe quoi, je préfère pas rentrer dans ces débats-là ». Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a été créé suffisamment tôt pour être très proche de tous les créateurs de métaverse importants, que ce soit Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel, etc. On les connaît par leur prénom. Et donc, ça permet d'avoir un avantage concurrentiel très fort, parce que quand une entreprise veut s'implémenter dans le métaverse et veut connaître les standards, la route pour le faire, on connaît tout et on sait vraiment bien déployer les expériences dans les univers qui sont pertinents. Alors, quelle est notre ambition?
Je t'arrête là-dessus. Ouais, désolé, je te coupe, mais en fait, il y a à chaque fois, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs métaverses, c'est ça. Ils sont pas encore reliés. Il n'y a pas un seul et même métaverse, et pour l'instant, ils se tirent tous la bourre pour prendre le lead, c'est ça?
C'est ça. Alors, chacun a un petit peu un angle différent. Par exemple, Sandbox, c'est quand même une économie qui se développe dans ce métaverse. On a Decentraland qui est peut-être plus sur des visualisations un peu réalistes. CryptoVoxel qui est plus expérimental. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Roblox qui a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, mais qui sont plutôt jeunes. Donc, c'est un vrai sujet de se dire, est-ce que quand on est une marque, on veut vraiment s'adresser à ces gens-là? Donc, il y a énormément de spécificités pour chacun d'entre eux. Et même la manière de construire des expériences, des assets 3D est différente. Donc, nous, on maîtrise vraiment toute cette chaîne de production jusqu'à... Alors, de la conception vraiment théorique, parce qu'on a des architectes, on a des théoriciens de l'architecture dans notre agence, et ça, très peu de gens l'ont, donc on est capable de convoquer des références culturelles que assez pointues, Yona Friedman, Claude Parent, etc., voilà, des utopies architecturales qu'on peut déployer dans ces univers, et on va jusqu'à bien sûr l'exécution et l'animation également des communautés via ce qu'on appelle les Discord, les comptes Twitter, etc. Donc on le fait aussi pour nos clients s'ils le désirent. Ce que je voudrais dire aussi dans ce domaine, c'est que il y a beaucoup quand même de barrières à l'entrée dans ce domaine parce que il y a une barrière à l'entrée technique. Il faut connaître les gens et typiquement les fondateurs de Metaverse maintenant ils sont sursollicités. Donc comme ils nous connaissent, ils nous répondent en priorité. Et également en fait, on n'a pas peur de travailler avec de très grandes entreprises qui sont parfois qui ont parfois beaucoup d'inertie parce qu'on a cette expérience-là. Donc on sait travailler avec des acteurs comme Carrefour, avec Leader Price, Orange, etc. qui sont super, mais qui ont parfois une inertie et on est là pour les aider à trouver la bonne approche, l'approche la plus pertinente.
Très bien. Et quel est l'intérêt de ces gens-là d'aller sur le métaverse à part faire de la publicité, alors, être présent et ce que tu c'est ce que tu expliquais aussi tout à l'heure. Mais vas-y.
Alors, en fait, c'est moi, je préfère dire la vérité. Je pense qu'il y a une grande partie de publicité, c'est-à-dire publicité. Alors pas forcément publicité, mais de communication. Mais néanmoins, tout le monde, tous les gens qui se lancent, qui mettent des budgets dessus, ont un peu la même réflexion. Souvent, ils disent. On a raté le virage du e-commerce, on a raté le virage de la data et on s'est mis à jour in extremis, maintenant on est à peu près bon. Donc le virage du métaverse, on le ratera pas, le virage du Web3. Okay. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, les usages principaux sont assez restreints. Mais néanmoins, quand on réfléchit un peu macro, et moi c'est ça mon boulot aussi dans BenBuilders, pourquoi je crois à ce business et à cette entreprise et que ça va être énorme dans le futur, c'est que regarde, quand tu cherches aujourd'hui une information sur Internet, tu vas sur ton ordi, déjà c'est relou, ou sur ton téléphone, ensuite tu dois ouvrir un navigateur, tu dois taper un texte, tu dois cliquer sur le lien « chercher l'information ». C'est pas normal, tu vois, au sens expérience, il faut dépasser ça. Moi, quand je prends mon vélo et que je vais quelque part dans Paris, bon, je connais quand même bien les rues, mais parfois il y a des rues que je connais pas, bon, je mets Google Maps, j'en ai marre d'être avec mon téléphone dans ma main comme ça sur mon vélo machin. Je veux peut-être des lunettes. Alors je suis pas non plus un cyborg, hein, mais ça m'irait bien d'avoir des lunettes en réalité un peu augmentée où je vois tout ce qui se passe. Puis j'ai juste une petite flèche qui me dit attention, faut tourner à droite. Bon, voilà. Je suis pas dans le gadget, mais ce que je veux dire, c'est que dans le futur, assez proche, je pense que les modalités d'interaction avec les machines vont changer radicalement. Et on n'ira pas chercher l'info de la même manière, on ne travaillera pas de la même manière, tout simplement parce qu'on en a marre d'avoir un écran en face des yeux et quelque chose qui nous bloque, qui fait un mur entre nous et le monde. Voilà. Et donc, c'est purement une vision personnelle. Mais je pense que si un jour, on a des browsers, des navigateurs Internet visuels, qu'on a des outils de collaboration comme Zoom, mais en 3D, ça veut dire qu'on va avoir des adoptions du métaverse qui vont se diversifier très fort, ou inversement. Et donc, c'est ça sur quoi on mise. Et en fait, les entreprises qui s'intéressent à ce secteur-là sont convaincues de cet aspect-là aussi. Et elles se disent, si je m'y mets maintenant, je vais peut-être faire des conneries, je vais faire des expériences qui vont pas marcher, mais au moins, toute mon équipe avec qui je travaille, tous mes employés en auront entendu parler, se diront tiens, ça pourrait m'aider à aller plus vite dans ce secteur, ça m'aiderait à éviter de voyager avec un designer et de consommer du CO2 pour rien, etc. etc. Et voilà. Et peut-être que ça peut permettre de réfléchir. Moi, je suis pas forcément obsédé par les nouvelles technologies, etc. Mais c'est vrai que là, je sens quand même qu'il y a un changement de paradigme, pas forcément pour le pire, pour une fois, et que ça peut être une techno intéressante. Donc, c'est comme d'habitude. Moi, quand je me suis intéressé à l'intelligence artificielle en 2013-2014 avec Anis, Claire et mon équipe, bon bah les gens, il y avait des articles dans Le Monde qui sortaient qui disaient les machines vont nous remplacer, on va tous mourir. Bon bah finalement, c'est pas exactement en train d'arriver. C'est un sabre à double tranchant, ça peut arriver, mais il y a beaucoup d'aspects positifs qui se passent avec l'IA dans la recherche contre le cancer, le diagnostic, etc. Donc c'est ça qui m'intéresse dans le métaverse, c'est quelles applications positive on peut avoir pour les humains.
Trop bien, ok. Parfait, hyper intéressant et hyper passionnant tout ce que tu nous racontes. Passons sur Stabler Tech. Réexplique-nous concrètement à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites, et là, encore une fois, quelle est la vision et l'objectif de Stabler Tech.
Pendant la crise du Covid, les entreprises ont été soumises à tout un ensemble de de nouvelles situations, parfois pour le pire, mais aussi de temps en temps pour le meilleur. En tout cas, c'était des expérimentations qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'effectuer en mode réel. C'est vrai que, par exemple, lorsqu'il a fallu être vraiment sur le pont, au moment particulier du mois de mars, du mois d'avril 2020, quand il a fallu vraiment limite sauver le business de certaines entreprises, bah, on s'est rendu compte que il y avait finalement les gens qui étaient opérationnels à tous les niveaux de la hiérarchie, hein, et qui savaient vraiment faire quelque chose, exécuter et finalement bah, sauver leur activité à cet instant-là. Et notamment dans les très grandes entreprises, on s'est aussi rendu compte que parfois on avait 10, 15, parfois même jusqu'à 30% des gens, bah finalement pendant cette crise qui était pas forcément indispensable. Alors je le dis peut-être un peu brutalement, mais c'est finalement tous ces gens qui sont là pour être un peu des sommets de pyramide dans les très grandes organisations, qui passent beaucoup de temps dans les réunions, qui discutent un petit peu parfois du sexe des anges, si vous me passez l'expression. Bon bah finalement ces gens-là, quand on était en période de crise et qu'il fallait vraiment résoudre des problèmes rapidement et voilà opérationnellement, bah ils étaient, on s'est rendu compte que c'était un peu moins nécessaire. Donc c'est vrai que d'un point de vue sens au travail, ça fait poser beaucoup de questions, parce que bah finalement ces gens-là, ils ont souvent tous fait des études, ils cherchent du sens à leur vie, et je pense que à mon sens, et c'est vraiment une opinion purement personnelle, c'est un petit peu ce qui a déclenché ce qu'on appelle la grande démission, c'est-à-dire toutes ces personnes qui maintenant cherchent à changer de travail, ils se disent mais enfin j'ai quand même fait des études, quand j'étais jeune j'avais un peu cet idéal d'utiliser mon cerveau et de me déployer et d'apprendre, et là qu'est-ce que je suis en train de faire, j'apprends pas vraiment. Donc ça a créé un électrochoc, et je pense que toutes et toutes, chacun à notre niveau, on l'a ressenti. Bon, ça c'est un point plutôt managérial. Il y a quand même des éléments positifs, c'est-à-dire que finalement pendant la crise de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été dédramatisées, comme par exemple le télétravail, évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, on en a beaucoup parlé dans le podcast, mais également en fait au niveau de l'équipement, c'est-à-dire que des entreprises de taille moyenne à grande se sont vraiment dotées cette fois-ci d'infrastructures pour extraire, stocker et traiter des données et vraiment en tirer parti d'un point de vue business. En fait, elles n'avaient pas le choix, c'est-à-dire que pour arriver à mesurer en temps réel ce qui se passait dans une période très incertaine, il fallait vraiment mesurer et être en temps réel. Et ça nécessite des outils et des moyens de stocker, des moyens d'analyser. Donc aujourd'hui, finalement, les entreprises, elles sont équipées, elles ont gagné en maturité en l'espace de quelques mois, et on n'avait jamais vu une telle accélération en maturité dans la data. Moi, je m'en suis rendu compte notamment en donnant des cours à l'IFM, en voyant, ne serait-ce que comparer ce qui se passe, enfin, les discours des entreprises entre 2018 et 2021, c'est assez spectaculaire. Et donc, tous ces systèmes, tous ces éléments d'analyse, stockage de données, ils doivent être nourris. Ils doivent être nourris avec des données qui viennent principalement de l'extérieur. Et pour ça, il faut les extraire. Donc c'est vraiment un besoin fondamental. J'ai mis un peu longtemps à le définir, mais en vrai, aujourd'hui, toute entreprise pourrait se qualifier d'entreprise de data. Je vais rien t'apprendre, parce que avec Réuni, c'est finalement ce que tu fais. Tu collectes des données pour comprendre quels sont les aspects du produit à créer. Ça n'empêche pas d'avoir ta stratégie, ça n'empêche pas d'avoir ta vision, y compris esthétique, mais grâce à cette donnée que tu collectes, tu l'ajustes au fil du temps. Bon, à des niveaux divers, on a besoin de collecter de la donnée, et c'est ce qui nous a donné l'idée de créer ce tableur. En fait, chez ce tableur, on a cette composante qu'on avait déjà chez Daco d'usine d'extraction de données. C'est aussi une composante qu'on avait chez Vente Privée, parce qu'on a déployé cette usine d'extraction de données dans des proportions tout à fait immenses. Et quand on était chez Vente Privée, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont dit « j'aimerais bien avoir la même chose, parce que maintenant j'ai des outils pour stocker de la donnée et l'analyser, mais il faut la collecter ». C'est un fonctionnement très technique, c'est très complexe à faire quand on veut bien le faire de manière industrielle, et donc c'est ce qu'on a créé. Donc chez Stableur, on aide les entreprises à extraire de grandes quantités de données qui sont disponibles sur Internet, qui sont pas forcément structurées, et donc on crée un outil qui permet de mettre en place des robots. Ces robots vont aller naviguer sur des millions et des millions de pages web, récupérer énormément d'informations, et ça peut être des pages de site e-commerce, ça peut être des informations de l'immobilier, ça peut également être des informations dans la blockchain, ou encore des informations autour du voyage, ou tout type de contenu. Et ce contenu va être ensuite lourdement transformé par l'entreprise, comparé, analysé. Ça, c'est pas notre métier, mais c'est vraiment la matière première. Voilà. Donc, pour terminer là-dessus, si on devait comparer notre activité, par exemple, à quelque chose qu'on connaît mieux, comme la joaillerie, bon bah, si l'analyse de la donnée globalement, c'était le comme le secteur de la joaillerie, ce qu'on appelle la data science, les analytics, les analyses, ça serait la partie vraiment, je monte les pierres sur le bijou. Et nous, on est complètement de l'autre côté de la chaîne, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte les gros tractopelles qui allons extraire les minerais, la donnée brute pour qu'elle soit ensuite transformée. Donc, c'est pas l'activité la plus excitante d'un point de vue intellectuel, mais sans ces tractopelles, sans cette extraction de minerais d'une manière ou d'une autre, on peut pas faire de bijoux.
Très bien. Et la vision à long terme de Stabler, c'est quoi? C'est vraiment devenir le leader sur le marché européen, oui. International.
Alors, Mais en fait, pour Stabler, alors c'est une vision qui évolue sans arrêt, sans doute au fil du temps, mais moi j'ai vraiment envie de créer une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire, une très belle entreprise, très rentable, et un peu sur le modèle d'une entreprise allemande. Moi j'aime bien citer le nom d'une entreprise qui s'appelle Ehrenknecht, c'est une entreprise allemande qui fait des tunnels. C'est un tunnelier. Donc, ils fabriquent des énormes machines qui creusent dans la montagne comme ça. Les gars, je ne sais pas combien ils font. Je crois que c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Mais peut-être, oui, je ne sais plus. Bon, ils font un énorme chiffre d'affaires. Ils sont quasiment seuls sur leur marché parce que c'est tellement relou de créer des tunneliers comme ça. Et c'est une entreprise familiale qui est hyper bien gérée, carrée, qui inspire confiance. Et qui de facto fait de la très bonne machinerie. Donc c'est exactement ça que je voudrais faire. Voilà. Et je voudrais être la référence. Si quelqu'un dit oulala, je voudrais créer une usine d'extraction de données parce que après j'ai besoin d'analyser les données, d'en faire des modèles, d'alimenter tel dashboard, etc. Je veux qu'on pense à moi et qu'on me dise ok, de toute façon c'est les meilleurs. Terminé. C'est l'objectif.
Mais ouais, c'est une bonne vision ça. Et comment on arrive à ça? Enfin parce que entre la vision et l'exécution, à un moment donné, il y a un monde, mais quelle est la méthodologie pour arriver à un truc aussi puissant?
Alors, donc, en fait, pour créer cet outil, on fait quand même levier sur notre expérience qu'on a accumulée chez Vente Privée, où on a créé une usine d'extraction de données, où on extrayait des milliers de sites de manière très régulière, avec une usine, avec vraiment une équipe, une infrastructure, etc. Donc, on sait un peu l'outil idéal à créer pour que une équipe puisse collaborer de manière fructueuse, productive, etc. Donc, pour répondre à la question, il faut un bon outil. Donc ça, on est en train de le créer, on est déjà en train de le faire tester et ça se passe plutôt bien. Et puis, il faut développer ensuite chaque département. Donc dans un premier temps, il faut avoir une méthodologie de vente très très efficace. À l'intérieur du cycle de vente, nous, on collecte des informations, des retours, des prospects, même au stade de prospects, qui permet d'améliorer à toute allure notre produit. Ensuite, il faut un très bon département technologique. L'extraction de données, c'est pas un domaine excitant, mais en revanche, qui nécessite beaucoup d'expertise. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est créer une entreprise où il fait bon vivre, où on peut attirer des talents et qui restent avec nous et qui fassent la R&D avec nous. Et enfin, il y a toute une partie où on soigne les clients. Il n'y a pas de secret, hein, mais où on prend soin d'eux, on voit si on résout bien leurs problèmes et éventuellement, on développe des technologies additionnelles pour que vraiment, ils utilisent à fond l'outil. Voilà. Après, on pourrait imaginer beaucoup d'autres choses, mais vraiment, l'idée, c'est d'être une entreprise très technologique. Donc, c'est vraiment le cœur de métier, hein, les opérations, la technologie et les ventes.
Et aujourd'hui,
ça reflète bien l'actionnariat, hein, parce que moi, je m'occupe des opérations, Romain des ventes et Anis de la tech.
D'accord. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui font la même chose, et est-ce qu'un Google ne pourrait pas faire ce genre de choses?
Alors, Google, en fait, eux-mêmes, ils font du scraping. En fait, aujourd'hui, il y a 40 à 50% du trafic web mondial qui sont des robots comme ça. Alors après, c'est pas forcément pour les mêmes objectifs. Google, c'est pour actualiser le page rank, comme on dit, et le SEO, etc. Bon, chacun a ses robots. Donc, est-ce que Google pourrait le faire? Oui, ils le font déjà. Après, vraiment pour du scraping, je suis pas certain que ça soit leur métier, mais on sait jamais. Oui, on peut toujours se faire googliser ou amazoniser, hein. On peut toujours avoir ces grands acteurs qui sortent le même service que nous. D'ailleurs, c'était le cas pour Dako. Hein. Quasiment 6 mois après l'acquisition de Dako par vente privée, Amazon a sorti une librairie de reconnaissance d'images adaptée à la mode. Donc, c'est pas impossible. Et c'est un sujet, si tu as interrogé Euritech, c'est vrai que, par exemple, Euritech, souvent, ils ont développé des librairies très pointues à l'époque. Et ensuite, Google a sorti une librairie similaire des années après. Voilà, c'est un problème qu'on retrouve souvent dans la tech. Voilà, donc je pense, je sais pas si ça répond à la question, mais ouais, je sais pas.
Carrément.
C'est un peu ce que
Ouais, si. Ouais, ça répond à la question. Est-ce que peut-être pour vraiment être très concret sur Stabler Tech, pour une marque de mode, ça sera. Quelle est l'application concrète? Donne-moi 2-3 exemples, s'il te plaît.
Oui. Il y a beaucoup d'applications, mais je peux donner un exemple, par exemple, pour une marque de luxe, qui bénéficie pas forcément encore de tous les outils que peuvent lui donner la blockchain, des choses comme ça. Donc, imaginons, on est Balenciaga, et on se dit, tiens, j'aimerais mieux comprendre ce qui se passe sur le second marché de mes produits, quels sont les prix, qui vend vraiment des produits Balenciaga, qu'est-ce que c'est exactement et tout. Eh ben, typiquement, en utilisant notre solution, ils peuvent aller extraire tous les produits Balenciaga vendus sur des sites de second marché, avoir cette donnée brute et ensuite l'analyser. Et peut-être qu'en fait, grâce à cette extraction qui sera faite en temps réel, enfin pas en temps réel, mais de manière régulière, ils vont voir au fil du temps l'évolution des vendeurs de produits. Peut-être qu'ils vont se rendre compte, par exemple, que tu as un vendeur qui vend 30% de l'offre Balenciaga sur certains sites. Et donc, ils vont peut-être essayer d'entrer en contact avec eux. Ça va mener à des décisions business très concrètes. Voilà, c'est juste un exemple. On peut avoir un autre exemple. Si on est une marque de luxe qui s'apprête à lancer des NFT, peut-être que plutôt que de les vendre, ils vont peut-être vouloir les offrir à des gens crypto-riches. Mais qui sont les gens crypto-riches? Comment on fait pour savoir? Il faut extraire la blockchain à la recherche des adresses qui possèdent le plus de crypto, quoi. Et ensuite, essayer de reboucler en fonction de est-ce qu'ils possèdent des CryptoPunks, des NFT qui sont chers, etc. Et ça, c'est de l'analyse data. Nous, on le fait pas, mais on extrait les données qui permettent de faire ces analyses. Voilà, c'est juste 2 exemples. Il y en a plein d'autres. Et tout ça, ça paraît simple, mais il y a énormément de valeur derrière parce que c'est un vrai pain, en fait. Il faut avoir ces données.
Trop bien.
J'ai des exemples à l'infini, hein. Je peux en sortir à l'infini, ouais. Mais typiquement dans le luxe, dans la mode, dans le luxe, aujourd'hui, on a un switch de la vente de biens vers de la vente d'expérience. J'invente rien, c'est tous les rapports McKinsey disent ça depuis quasiment 6-7 ans. Et donc, la vente de biens, souvent, on voit qu'elle diminue, la vente d'expérience augmente. Au total, le marché du luxe, il prend 1-2% par an. Alors, il y a des acteurs qui vont plus vite que d'autres, mais globalement, c'est un peu ça. Et donc, dans l'expérience, on a besoin d'infos. Typiquement, on a besoin de savoir qui réserve quel hôtel, à quel moment, pour un couple de 2 personnes, combien ça coûte d'aller à tel endroit dans telle ville. Tout ça, en fait, on peut pas le faire à la main, c'est plus possible. Et malgré tout, on a besoin d'alimenter des systèmes qui font des calculs tous les jours. Ça, c'est vraiment ce qu'on automatise. Donc, on est capable de faire des recherches. Je suis un couple de 2 personnes, je vais à Châteauroux, qu'est-ce que je peux avoir comme hôtel, à quel prix? Alors, ça, je peux l'automatiser.
Très bien, ok. Trop cool. Je pense qu'on a fait un grand tour de toutes tes activités, de tes nouvelles aventures et un bon résumé de ce qui s'est passé depuis l'épisode 17 à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder, des choses que tu nous aurais cachées peut-être, qui ne sont pas sur ton profil LinkedIn et que d'autres activités dont tu aurais voulu parler?
Non. Non, j'ai pas vraiment grand-chose. C'est une très belle conversation et merci pour ces questions et ce bel échange. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est si vous avez envie de réfléchir ensemble et de m'écrire, moi, je suis toujours assez disponible. Je réponds pas forcément instantanément, mais faut pas hésiter à me contacter. Je suis assez facilement trouvable, notamment sur LinkedIn. Donc voilà, faut pas hésiter. Et j'ai beaucoup d'aventures, que ce soit business ou même artistique, qui ont commencé par une bouteille à la mer que moi j'ai envoyée ou que j'ai reçue. Et voilà, n'hésitez pas. Je trouve que c'est aussi un conseil business. je sais que toi tu le fais aussi parce que je t'ai déjà vu le faire et tout, mais moi quand je m'apprête à, quand je découvre un nouveau service ou que je vais dans un nouvel endroit ou que je teste un outil, etc., ça m'arrive de beaucoup l'aimer. Et quand je l'aime beaucoup, bah, j'écris aux fondatrices ou aux fondateurs. C'est mon réflexe. Mmh. Je fais ça, je sais pas pourquoi. Et je dis, bah, je leur fais un petit mail rapide. Ça me prend pas non plus trop de temps, parce que ça m'arrive pas tous les jours. Mais je fais un mail rapide où je dis, bah, voilà tout ce que j'aime et je dis deux, trois trucs que je verrais bien améliorer. Et ben, juste faire ça, parfois, ça permet d'engager des conversations qui mènent à des projets complètement vénères. Et parfois, des années après, je me dis, mais comment j'ai rencontré cette personne? Bah, c'était comme ça. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à écrire aux gens qui vous intéressent. À vous engager avec eux. Alors bien sûr, idéalement, faut avoir un truc un peu intéressant à proposer parce que ça permet d'être plus efficace. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et j'ai souvent vu des belles aventures émerger.
D'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure, tu nous disais en introduction du podcast que vous aviez été beaucoup plus vite, que vous aviez automatisé, vous aviez gagné en productivité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que vous avez fait différemment qui fait que vous avez gagné du temps? Quels sont les outils que tu utilises aujourd'hui pour aller plus vite? Ça, c'est c'est un sujet à diguer qui peut être vachement intéressant pour les auditeurs.
Alors, ouais, je sais pas si c'est le fait de commencer un peu à vieillir ou alors d'avoir créé une deuxième, une troisième entreprise. Mais je trouve que maintenant, c'est pas une auto-congratulation, mais je trouve que quand même, quand je regarde comment j'utilise mon temps, je l'utilise mieux qu'avant. Voilà. Et ça, concrètement, c'est que je me dis à chaque fois, sans dire est-ce que ça peut me rapporter de l'argent, j'essaie quand même de réfléchir à est-ce que mon temps est bien investi à faire telle ou telle chose. Quand j'ai créé Daco avec mon équipe, on avait passé quasiment 2 semaines à créer le site, alors pas forcément à plein temps, mais et que je crée le WordPress, et que je mette un thème, et que j'écrive du texte, etc. Enfin, aucun intérêt. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé un service de site pour le faire, le site de Stabler. J'ai utilisé un site de no-code, OK, qui me permettait de créer une ce qu'on appelle une landing page, donc un site de startup assez classique. Moi, j'avais pas besoin d'avoir un design invraisemblable, je voulais juste que ça ait l'air assez chic, que ça reprenne les couleurs que j'ai choisies pour la charte graphique avec mon équipe et terminé. Bah, le site, je te la fais courte, mais je l'ai fait en 7 heures. 7 heures. Et dans les 7 heures, j'ai passé le plus clair du temps à écrire du contenu, pas à construire le code. Bon. Pareil, les termes et conditions. Bon, là, peut-être mon avocat va m'arracher la tête, mais pour un premier site, quand on démarre, bon bah j'ai trouvé un site qui générait des termes et conditions adaptés à la législation française. Et puis dans un deuxième temps, quand on va avoir beaucoup de clients, des enjeux différents, etc., bah là on adaptera les termes spécifiquement peut-être à certains aspects de notre business. Là je parle des termes et conditions du site, je parle pas du contrat qu'on signe quand on vend Stabler, ça c'est fait sur mesure. Mais en fait voilà, je trouve que j'ai mieux utilisé le temps et pareil dans la vente. En fait maintenant ça m'arrive d'avoir des clients, enfin des prospects qui m'écrivent, mais en qualifiant mieux ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont vraiment le budget, est-ce que la personne qui me contacte, elle est capable de contacter des personnes qui peuvent vraiment acheter, bah on va plus vite, quoi. À un moment donné, voilà, on va plus droit au but. Donc, je pense que c'est ça qui, en termes de productivité. Et après, bah j'ai des petites recettes que je me suis mis en place. Alors, moi, je valorise pas du tout le travail en volume. Je trouve que quand on a fini sa journée à 16h, si on est content de ce qu'on a fait, bah on va prendre une petite glace à Palais Royal ou j'en sais rien. On n'est pas obligé de se foutre dessus toute la journée à être épuisé. Donc je valorise pas le travail en volume, mais c'est vrai que à une époque, toujours maintenant d'ailleurs, mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire dans une journée et j'avais une charge mentale. Je me suis rendu compte assez forte, à tel point que à un moment donné, il y avait des gens qui m'appelaient à 10h le matin et qui me disaient alors t'es où, on t'attend dans le call, quoi, parce que j'avais oublié. Et maintenant, je me suis beaucoup mieux organisé et je vais pas vous sortir des listes de produits qui permettent de s'organiser et tout. J'en ai appris certains grâce à toi d'ailleurs dans un mail que tu avais partagé avec Réunie, avec certains outils que t'aimes bien utiliser. C'était très chouette. Merci d'avoir fait ça d'ailleurs. Mais là, par exemple, récemment, bon, comme beaucoup de gens, j'ai utilisé Notion. Et c'est vrai que Notion, dans mon cas, ça marche bien parce que j'ai plusieurs streams, entre guillemets, j'ai plusieurs types d'activités. J'ai OSVT, Builder, Stabler, et puis des trucs perso aussi. Et j'ai toujours des choses que, à un moment donné, je devrais faire. Donc j'ai ma petite colonne. À un moment donné, il faudra que je le fasse. Après, j'ai une colonne qui s'appelle Next Up. C'est le prochain truc que je fais, c'est ça. Ensuite, j'ai une colonne, par exemple, en cours, et j'ai une colonne fait, terminée. Et j'ai aussi une autre colonne qui est très importante pour la charge mentale. En tout cas pour moi, c'est fait, mais faut surveiller. C'est quand, par exemple, on a envoyé une bouteille à la mer. mais qu'à un moment donné, il faudra relancer pour voir où ça en est, etc. C'est différent de fait, parce que fait, c'est évacué, on ne fait plus. Et ben, le simple fait d'implémenter ça, franchement, moi, ça m'a vachement détendu. Et là, j'ai pas l'impression d'être stressé, d'être en retard dans ce que je fais et tout. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Si j'arrive pas à le faire, c'est pas grave, mais au moins, je sais que c'est dans mon truc. Mmh. Voilà.
Mmh. Donc, j'ai pas trop de une petite copie d'écran.
Ouais, si vous, il y a beaucoup de trucs, mais en fait, c'est juste un Notion qui est bien organisé et tout. Ouais. Et, bah, dans la journée, j'ai sans arrêt des petits jets de pensée comme ça à faire et je le mets là-dedans et voilà, c'est un petit conseil qui marche bien, je trouve, et qui est applicable à tout le monde.
Trop bien. Et ton, le site que tu as utilisé pour faire ta landing page, t'as pris quoi?
Alors, il y en a plein, ouais. Mais moi, j'ai utilisé un site qui s'appelle UMSO, UMSO. Voilà, qui marche très bien, tapez UMSO, et puis vous avez un template un peu qui est généré, que vous pouvez adapter, on peut rajouter ses propres images, et le faire comme bon nous semble. Alors c'est quand même plutôt adapté à des business type start-up, quand on est dans des business un peu créatifs, notamment comme Réunis, peut-être que le visuel va pas te plaire, parce que c'est assez sommaire, et tu vois, moi si un jour... ça commence à bien décoller pour ce tableur, peut-être que je recoderai un site vraiment esthétiquement voilà, sur mesure et tout. Mais en attendant, voilà, c'est pas quand on démarre un business, le plus important, ok, c'est important d'avoir le site, mais le plus important, c'est d'aller choper les clients, surtout en B2B. Donc,
voilà. Et sur OSVT, tu as utilisé quoi?
Alors, OSVT, c'est un WordPress avec un thème que j'ai personnalisé et le site n'a pas été actualisé depuis 2020 parce qu'en fait, j'ai enchaîné les projets et j'ai pas eu le temps de le faire. C'est un de mes petits projets que je ferai cet été si j'ai le temps. Je vais le faire calmement, mais je vais surtout me reposer. Mais si j'ai un peu le temps, je mettrai ce site à jour. Mais peut-être je vais changer aussi. J'utiliserai peut-être des outils un peu plus intéressants comme Squarespace ou quoi. Mais j'aime bien l'esthétique minimale du site, donc je vais peut-être rester comme ça.
Ouais, ça fait le taf. Très bien. Hyper cool. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Toujours mes deux dernières questions de la fin. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Et là, tu peux en dire plusieurs, mais comme tu navigues à l'intersection de plusieurs mondes, comme dirait Pierre-François Lelouet, tu peux en dire deux, trois dans les mondes dans lesquels tu navigues.
Alors, j'ai énormément d'idées. Je prends juste quelques secondes parce que malheureusement comme ça top of mind j'ai quand même beaucoup d'hommes donc j'aurais bien aimé avoir une liste un peu parité mais je vais quand même faire quelques propositions. Alors je pense que ce qui pourrait être vraiment très intéressant c'est de rencontrer Victoire de Pourtalès qui est une très grande galeriste avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui a récemment avec son mari Benjamin Hémer, donc ancien CEO de l'Officiel, lancé un projet autour de la néo-agriculture dans l'Essonne, qui est un projet multisectoriel qui veut faire à partir du matériau du chanvre, du béton de chanvre, de l'huile, du tissu et également un centre d'art. Donc je trouve que c'est des profils voilà très hybrides qui mériteraient d'être rencontrés. Moi j'aurais envie de voir dans le podcast aussi, alors je sais pas s'il pourrait s'exprimer, mais c'est vrai que je suis pas mal ce qu'il fait chez Tagueilleur, notamment avec le Web3, mais Frédéric Arnault, parce que tu m'as beaucoup posé des questions sur l'usage du Web3 dans le luxe, mais ça serait intéressant de voir des CEO d'entreprises dans ce domaine voilà, raconter finalement leur approche même intellectuelle du Web3 et ce qu'il a fait avec les montres qui intègrent des NFT, etc. C'est assez intéressant. Son frère aussi avec les CryptoPunks chez Tiffany, etc. Donc voilà, pourquoi pas Frédéric Arnault. Également, j'ai un très bon ami qui a créé en ce moment, qui est en train de créer une marque de gel douche sans eau qui s'appelle Robin Marais. Et qui a déjà beaucoup d'expérience entrepreneuriale, mais voilà, dans une optique où on réfléchit chaque étape de sa chaîne de valeur quand on crée une entreprise, lui, il est allé vraiment très loin en réfléchissant à l'emballage, le transport, les ingrédients. Voilà, donc en ce moment, il a une campagne sur Ulule, sa marque s'appelle Robinhood, et je pense que voilà, c'est même pour le fonctionnement de son cerveau, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et peut-être un dernier, toujours un peu dans les modèles comme ça, hybrides, intéressants. Peut-être que tu l'as en tête ou qu'il est dans ta liste, mais c'est Lassane, Driss Lassane, qui a créé un magnifique magasin. Alors, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais un concept incroyable, un magasin rue Molière, dont qui présente une seule pièce à vendre, qui a un trench sublime. J'en dis pas plus parce que je préfère que si tu l'interviews, il te le présente lui-même. Mais c'est une expérience retail incroyable en fait, parce que on est accueilli dans un salon et c'est complètement à rebours de ce qu'on peut voir dans un magasin, a fortiori dans la fast fashion et encore plus a fortiori avec Shine. Pour moi, c'est l'exemple, l'anti-exemple absolu de Shine côté luxe. Donc vraiment, la meilleure réception, la meilleure expérience, les meilleurs produits, etc. Donc, c'est très inspirant, je pense, de voir comment il réfléchit également. Voilà. Donc, désolé, il n'y a qu'une femme dans le lot, mais pour le numéro 2000 de Entreprendre dans la mode, si je reviens, je promets que je ferai un all-star féminin.
Ça marche, très bien, cool. Et ben, merci infiniment, Paul. C'était un plaisir de rééchanger avec toi. On a encore appris plein de choses. Donc, merci du fond du cœur, good luck pour la suite, et puis, passe un bel été, parce que là, on est fin juillet, bientôt début août, c'est un épisode qui va sortir très très vite d'ailleurs, et je t'embrasse, et j'espère te voir
merci. En chair en os à la rentrée. Avec grand plaisir, merci Adrien, et merci à tous les auditrices et auditeurs, et bonne chance, et bon été.
Ouais, merci, ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.